de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir, Sir Rita, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, Apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, Sir Rita, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous. Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir, Sergio Littard. Voici les nouvelles d'aujourd'hui. Je vais informer quelques événements importants. Par exemple, Sanana invite les étudiants du Timor-Leste à rendre hommage à B.J. Habibie. Anis assiste à Jakarta, Kizuna et Kidam pour renforcer le Japon et l'Indonésie. Le gouvernement provincial de Sulawesi du Nord et la Thaïlande explorent la coopération dans le développement de la noix de coco. Chers auditeurs, voici les nouvelles incomplètes. Sanana invite les étudiants du Timor-Leste à rendre hommage à B.J. Habibie. Le premier président du Timor-Oriental, Kairana Sanana Gusmão, invite les étudiants estimoré à rendre un dernier hommage à B.J. Habibie en visitant la tombe du troisième président au cimetière Kalibata Erus à Jakarta. Selon lui, les étudiants timorais qui étudient en Indonésie doivent se rendre en pèlerinage dans la tombe, car Habibie a joué un rôle déterminant dans la fondation du pays, surnommé Bumi Lorosai. Sanana est arrivé au parc des tombes d'héroïnes de Kalibata en compagnie de l'ambassadeur du Timor Oriental en Indonésie, Alberto C.P. Carlos, et du secrétaire personnel de Habibie, Rubianto. Arrivé à la tombe d'Habibie, Sanana restait assis sans bouger pendant plusieurs minutes et continua de poser des compositions florales et des fleurs sur la tombe du troisième président indonésien. Anis assiste à Jakarta, Kizuna et Kidam pour renforcer le Japon et l'Indonésie. Le gouvernement de DKI Jakarta, Anis Baswedan, a ouvert l'événement de relais à Jakarta, Kizuna et Kidam 2019 en tant que symbole du renforcement des relations bilatérales entre le Japon et l'Indonésie. Anis a appelé le Kizuna et Kidam Jakarta 2019 en tant que sport de relais entre les deux nations, ce qui a permis de créer une atmosphère de solidarité et d'amitié entre les nations. Anis a l'est du stade Gelora Bung Karno du centre de Jakarta a expliqué dimanche 15 septembre que les relations entre l'Indonésie et le Japon n'étaient pas simplement intergouvernementales, GAG, et entre entreprises, BAB, mais également entre nations. Il a ajouté que les projets de développement commun menés au Japon étaient également largement mis en œuvre, mais qu'il convenait également d'encourager les aspects culturels et sportifs entre les communautés. Le gouvernement provincial de Sulawesi du Nord et la Thaïlande explorent la coopération dans le développement de la noix de coco. le gouvernement provincial de Sulawesi du Nord et le ministère thaïlandais de l'agriculture souhaitent explorer une coopération pour le développement des produits de noix de coco. Le secrétaire provincial du Nord Sulawesi, Edwin Silangen, lors d'accepter délégation thaïlandaise à son bureau à Manado, a remercié pour être intéressé à collaborer avec Sulawesi du Nord. Cela a encouragé également les gens dans l'esprit asiatique. Selon Edwin, le gouvernement provincial de Sulawesi du Nord explore cette coopération avec enthousiasme, car de nombreux produits dérivés de la noix de coco doivent encore être gérés et développés. Il a dit que sa partie continue à apprendre plus de diversification de ces produits de noix de coco. L'huile de noix de coco, l'un des produits transformés à base de noix de coco, a été utilisée comme souvenir des touristes étrangers visitant le nord de Sulawesi. Le ministère indonésien de l'Environnement et des Forêts chelait le terrain d'une entreprise malaise d'huile de palme qui aurait été brûlée à Riau. Le ministère de l'Environnement et des Forêts, KLHK, chelait le terrain d'une entreprise malaise d'huile de palme, PTADI Plantation et Industrie, afin d'enquêter sur un cas présumé d'incendie de tourbière dans la région de Pelalawan à Riau. Sugeng Rianto, directeur de l'application des lois sur la surveillance de l'environnement à Pekanbaru, a déclaré que l'affaire était toujours en cours de collecte de matériel et d'informations sur leurs terres de concession. Sugeng Rianto, avec un certain nombre d'enquêteurs de la Direction générale de l'application de la loi Gakum du ministère de l'Environnement et des Forêts, avait scellé les terres des concessions de PTADI le vendredi 13 septembre. Le scellement sous forme d'installation de panneaux d'annonce et de rubans jaunes tendus interdisait le passage. Les terres de 4,25 hectares soupçonnées d'être brûlées étaient situées dans la région de Pelalawan, au sud de la ville de Pekanbaru. NTT optimiste quant à l'augmentation de ses échanges commerciaux avec le Timor-Leste. Le gouvernement de l'Est de Nusa Tenggara, NTT, a bon espoir que les tendances commerciales de NTT au Timor-Leste connaîtront une croissance significative si le transport maritime de Maritain, région d'alors à Dili, commence en 2020. Cela a été dit par le chef du Bureau des relations publiques et du protocole du secrétariat régional de la province de Nusa Tenggara Est, Marius Ajelamu Akupang, dimanche. Marius a déclaré que cela a été lié au développement du secteur du transport maritime dans le commerce international croissant avec le Timor-Leste avec la construction du port international de Maritain. Il a déclaré qu'après la mise en service du port maritime international de Maritain en 2020, le flux de marchandises et de passagers de NTT à Dili, le Timor oriental deviendra plus dynamique. Il a ajouté que le gouvernement central s'empressait encore de construire diverses installations auxiliaires dans le port de Maritain, à région d'alors, afin de faciliter le chargement et le déchargement de marchandises et de passagers dans le port international qui relie NTT à Dili. Likupang est inclus dans 5 destinations super prioritaires. Le gouverneur de Sulawesi du Nord, Oli Dondokambe, a déclaré à la 3e réunion de coordination nationale du tourisme au ministère du Tourisme que Likupang, dans le nord du district de Minahasa, était l'un des 5 destinations super prioritaires. Le gouvernement d'Oli à Manado a déclaré que les 5 destinations hautement prioritaires discutées lors de la réunion de coordination nationale étaient le lac Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo et Likupang. Actuellement, les 5 destinations super prioritaires sont en train de développer les infrastructures dont l'achèvement est prévu en 2020. Il a confirmé que la position géographique, la géolocalisation et la géostratégie du nord de Sulawesi sont très stratégiques car la province est située dans le nord de l'Indonésie. Selon le gouverneur Oli, les stratégies de développement du tourisme reposent sur le Conseil de développement du tourisme durable. Chers auditeurs, c'était les nouvelles.
Angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Aku yang setia berjiwa Pancasila. Kita setia landas sekerjanya, ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi. Demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara.
Bonsoir chers auditeurs, voici le commentaire intitulé « Action décisive aux brûleurs forestières et terrestres ». Les forêts sont un domaine important pour la terre et la source de la vie humaine. L'Indonésie est le pays qui possède la troisième plus grande superficie de forêts du monde, constituée de forêts tropicales de diverses régions, notamment de forêts tropicales humides de Kalimantan et de Papouasie. Selon les données de Forest Watch Indonesia, FWI, un organisme indépendant de surveillance des forêts, 82 hectares de terre indonésienne sont encore couverts de forêts. Mais que se passe-t-il si les forêts, qui sont l'un des principaux défenseurs de l'équilibre de la nature et une source d'énergie microbiologique indispensable, touchaient des incendies? Les incendies de forêts et de terres Karhutla se produisent presque toujours chaque année dans plusieurs régions d'Indonésie, généralement au moment d'entrer dans la saison sèche. Bien que la superficie des incendies de forêts et de terres ait diminué, cet incident est toujours très préjudiciable à la communauté locale et même aux pays voisins. Les incendies de forêts et les incendies de terres ont un impact sur la destruction des écosystèmes et la destruction de la flore et de la faune qui se développent et vivent dans la forêt. La fumée qui en résulte se transforme également en une pollution atmosphérique pouvant causer des maladies respiratoires, telles que les infections des voies respiratoires supérieures, l'asthme et la maladie pulmonaire obstructive chronique. De plus, la fumée peut gêner la visibilité et particulier pour le transport aérien. Le ministère de l'Environnement et des Forêts, KLHK, a noté que l'étendue des incendies de forêts et de terres Karhutla depuis janvier et juillet 2019 avait atteint près de 136 000 hectares. La National Disaster Management Agency, BNBN, indique que les zones les plus boisées et brûlées se trouvent dans les province de l'est du Nusa Tenggara, des îles Riau et Riau. En général, la cause des incendies de forêt peut être causée par la foudre, une activité humaine négligente ou le brûlage intentionnel d'êtres humains. Ce qui se passe principalement, c'est l'incinération délibérée de forêts pour ouvrir de nouvelles terres. Le gouvernement a pris diverses mesures pour prévenir et combattre les fréquents incendies de forêts et de terres. L'une d'entre elles consiste à prendre des mesures fermes contre les acteurs impliqués dans les incendies de forêts. Jusqu'à présent, le gouvernement a établi des centaines de suspects et 4 sociétés impliquées dans des cas d'incendie de forêt en Indonésie. Les efforts du gouvernement indonésien pour lutter contre les incendies de forêt devraient être appréciés. Cependant, ce n'est pas seulement la responsabilité du gouvernement. La communauté, en particulier les cultivateurs individuels, a également la responsabilité de protéger l'environnement en évitant de brûler les terres à grande échelle, en particulier pendant la saison sèche, car cela peut entraîner des pertes considérables. Cher Jolitar, c'était le commentaire. Bonsoir, chers auditeurs, vous êtes avec moi, Oudry. Aujourd'hui, dans l'histoire, le 16 septembre. Nous commençons par l'événement du 16 septembre 1982, massacre de Sabra et Shatila. Le massacre de Sabra et Shatila a eu lieu le 16 septembre 1982. Le massacre de Sabra et Shatila a eu lieu le 16 septembre 1982 à Beyrouth, Liban, qui était alors occupé par Israël. Le massacre a été perpétré par des milices chrétiennes maronites libanaises contre des réfugiés palestiniens dans les champs de réfugiés de Sabra et Shatila. Les forces maronites étaient directement sous le commandement d'Eli Obeika, qui est devenu plus tard membre du Parlement libanais et dans les années 1990, et est également devenu ministre du cabinet libanais. Au cours de cet événement, les champs ont été encerclés par des soldats israéliens et les milices ont été envoyées par Israël à la recherche de membres de l'Organisation de libération de la Palestine, OLP. La question de savoir dans quelle mesure Israël est coupable du massacre. Toutefois, les conclusions montrent que les Israéliens, y compris Ariel Sharon, sont indirectement responsables. Passons maintenant aux événements du 16 septembre 1987. Le protocole de Montréal a été signé. Le protocole de Montréal est un traité international visant à protéger la couche d'ozone en éliminant la production d'un certain nombre de substances considérées comme responsables de la réduction de la couche d'ozone. Depuis lors, le traité a été révisé à 5 reprises, en 1990 à Londres, en 1992 à Copenhague, en 1995 à Vienne, en 1997 à Montréal et en 1999 à Beijing. Les projections climatiques montrent que la couche d'ozone reviendra au niveau de 1980 entre 2050 et 2070. En raison de sa large application et mise en œuvre, le traité est considéré comme un exemple du succès de la coopération internationale. Ce traktat est centré sur plusieurs groupes de composés d'hydrocarbures halogénés qui sont censés jouer un rôle important dans l'érosion de la couche d'ozone. Toutes ces substances contiennent du chlore ou du brome. Nous terminons avec le 16 septembre 1995. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est devenue indépendante de l'Australie. Après avoir été dirigée 3 puissances étrangères depuis 1984, la Papouasie-Nouvelle-Guinée est devenue indépendante de l'Australie en 1995. Aujourd'hui, la Papouasie-Nouvelle-Guinée fait toujours partie du monde du Commonwealth. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est un pays situé à l'est de l'île de Papouasie et limitrophe de la province de Papouasie-Indonésie à l'ouest. L'Australie au sud et l'Océanie bordent le sud, l'est et le nord. C'est capitale de l'une de ses plus grandes villes est Port Moresby. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est l'un des pays les plus diversifiés de la planète. Plus de 850 langues locales. La Papouasie-Nouvelle-Guinée est également l'un des pays les plus peuplés, avec seulement 18% de la population vivant dans les centres urbains. Ce pays est un des pays les moins explorés du point de vue culturel et géographique. Et de nombreuses espèces de planètes et d'animaux auraient été trouvées à l'intérieur de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. La plupart des résidents vivent dans des sociétés traditionnelles et exploitent des systèmes agricoles simples destinés uniquement à satisfaire leurs propres besoins. Ces communautés et clans ont une reconnaissance implicite dans le cadre de la constitution de l'État de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Sœur Joditaire, c'était aujourd'hui dans l'histoire.
Aku mas masih di sini untuk setia.
Chers auditeurs, c'était la chanson intitulée Setia, chantée par le groupe musical Jikustik. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, d'Indonésie pour le monde. Et voici donc mon Indonésie. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie et pour le titre, l'exposition Indo-Trans 2019. Afin de commémorer la Journée nationale des transports de cette année, le ministère des Transports a organisé l'exposition Indo-Trans 2019. Le vice-président Soufkala, lors de cette exposition, a déclaré que la bonne gestion des transports peut aider le gouvernement à presser le déficit de l'équilibre commercial à travers des réductions de l'utilisation de mazout dans le secteur des transports. Si le nombre de véhicules privés augmente, la consommation de carburant augmentera parallèlement à l'impact de la pollution causée par la combustion de carburant et les embouteillages. La gestion des transports est à construire des infrastructures de transport en commun rapides et pratiques afin que les gens puissent changer de mode de vie, d'utiliser des véhicules privés à des transports en commun. Par conséquent, Youssouf Kala espère que le ministère des Transports pourra se transformer pour gérer les itinéraires de transport à la fois terrestres, maritimes et aériens en Indonésie. Avec un système de transport efficace, le développement de toutes les régions d'Indonésie est égal, car il peut relier la communauté et faciliter la fourniture d'une logistique entre les régions. Youssouf Kala a également déclaré que le développement des transports en Indonésie se développait rapidement, que ce soit par voie terrestre, maritime ou aérienne. Il a donc demandé que le développement des transports soit suivi de l'utilisation de technologies qui le rendent efficace et réduisent les accidents. En outre, les ressources humaines dans le secteur des transports doivent être développées pour améliorer les capacités et prévenir la négligence dans le système de réglementation de transport terrestre, maritime et aérien. Il espère également que l'Indonésie gérera à nouveau son espace aérien à la frontière avec Singapour, qui est actuellement toujours géré par un pays voisin. À l'occasion de la Journée nationale des transports, le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, espère que son côté pourra améliorer les ressources humaines de son ministère afin que les transports deviennent plus pratiques et plus sûrs. L'exposition Indo-Trans 2019 s'est déroulée du vendredi au dimanche dernier sur le thème « Tricoter l'archipel pour construire la nation, un véritable service pour les personnes travaillant dans le secteur des transports pour une excellente Indonésie et avancée ». L'exposition avait pour objectif d'informer au public sur le développement des infrastructures, des installations et des ressources humaines dans le secteur des transports en Indonésie. Serviteur, c'était la Indonésie pour ce soir.
Bagaikan debu.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson intitulée Saatedu, chantée par Monita. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie pour le monde. Chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et les agences locales du peuple indonésien. Bonsoir, chers auditrices et chers auditeurs de la Voix d'Indonésie. Nous vous retrouvons dans notre programme favori, le magazine culturel. Cette fois-ci, nous allons vous inviter à visiter la colline Siguntang. La colline Siguntang à Palembang n'est pas probablement pas aussi populaire que le pont Ampera qui divise la rivière Musi. La colline est un lieu sacré qui a l'histoire du royaume de Sriwijaya. La colline de Siguntang est située dans le village de Bukit Lama, dans le district d'Ilir Occidental à Palembang, dans le sud de Sumatra. Auparavant, la colline de Siguntang était considérée comme un lieu de culte pour la famille royale et de méditation pour calmer l'esprit. Jusqu'à présent, la colline qui culmine de 29 à 30 mètres au-dessus du niveau de la mer est toujours considérée comme sacrée par la population locale. Habituellement, Les visiteurs qui viennent à Palembang se rendent en pèlerinage vers les tombeaux des nobles et sont considérés comme les fondateurs de la ville de Palembang. La colline est le point culminant de Palembang, ce qui en fait l'endroit le plus sûr en cas d'inondation. Sur le sommet de la colline, il y a quelques tombes qui sont liées aux figures des rois, nobles et héros de Malay Sriwijaya. Il est assez facile d'accéder au site touristique de la colline de Siguntang car il est situé dans le centre-ville de Palembang. Le voyage vers la destination peut être consulté du centre-ville en utilisant le transport terrestre à Ampera Bukit Besar. Le transport terrestre vous mènera directement à la colline de Siguntang. En entrant dans la zone de la colline, le visiteur devrait payer le billet d'entrée de 3000 rupiah pour un adulte et de 1000 rupiah pour un enfant, parce que son emplacement est proche du centre-ville. Donc, il n'est pas difficile de trouver des restaurants. Vous pouvez également trouver des hôtels en accord de vos besoins et de votre budget. Chers auditeurs, c'était notre programme pour ce soir. Merci de votre attention. À demain. Serviteur, c'était la chanson Duet Sus and the Couple Company, intitulée Winda et Defrina. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'Indonésien.
Bonsoir à tous, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien, une rubrique qui vous introduit des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Le sujet d'aujourd'hui est Ucapan ulang tahun lewat posel. Je répète, Ucapan ulang tahun lewat posel. Ou en langue française, Joyeux anniversaire vous par email. Chers amis, je vais vous donner l'exemple d'une conversation intitulée Ucapan ulang tahun lewat posel ou en langue française Joyeux anniversaire vous par email. À la maison de Joko, aujourd'hui on fête l'anniversaire de Tony. Dinda, Joko et Enda ont fait une surprise. Puis ils se bavardent.
Kakakku mengirim pesan selamat ulang tahun lewat posel.
Apakah kamu sudah membalasnya?
Ya, sudah.
Après avoir écouté cette conversation, je vais vous introduire des vocabulaires et des phrases indonésiennes liées au sujet d'aujourd'hui, Ucapan ulang tahun lewat posel. Ou en langue française, Joyeux anniversaire vous par email. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois et vous pouvez les répéter après moi. Téléphone. Téléphone. En français, appel téléphonique. Poste. Poste. En français, le poste. Posel. Posel. En français, email. Lewat. Lewat. En français, par. Via. Via. En français, via. Melalui. Melalui. En français, par. Menyampaikan selamat. Menyampaikan selamat. En français, félicité. Mengirim hadiah. Mengirim hadiah. En français, envoyer des cadeaux. Kakakku mengirim pesan selamat ulang tahun lewat posel. Kakakku mengirim pesan selamat ulang tahun lewat posel. En français, ma sœur a envoyé un message de joyeux anniversaire par email. Apakah kamu sudah membalasnya? Apakah kamu sudah membalasnya? En français, avez-vous répondu? Ya, sudah. Ya, sudah. En français, oui, déjà. Dans le dialogue, Tony dit « Kakakku mengirim pesan selamat ulang tahun lewat posel. » Je répète, « Kakakku mengirim pesan selamat ulang tahun lewat posel. » Qui signifie « Ma sœur a envoyé un message de joyeux anniversaire par email. » Cette expression est généralement utilisée lorsque quelqu'un donne des informations sur un média utilisé pour envoyer, transmettre ou donner quelque chose. Dans cette expression, le mot habituellement utilisé est lewat, lewat, ou en français par. Le mot lewat dans cette expression est similaire avec via et melalui. Via et melalui qui signifie « par ». Voici des exemples en utilisant le mot « lewat »,« via » et « melalui ». Dia menyatakan selamat lewat telepon. Dia menyatakan selamat lewat telepon. En français, il a dit des félicitations par téléphone. dia menyampaikan selamat via telepon. Dia menyampaikan selamat via telepon. En français, il a félicité par téléphone. Dia menyampaikan selamat melalui telepon. Dia menyampaikan selamat melalui telepon. En français, il a félicité par téléphone. Kakakku mengirim hadiah lewat pos. Kakakku mengirim hadiah lewat pos. Ou en français, ma sœur a envoyé un cadeau par la poste. Kakakku mengirim hadiah via pos. Kakakku mengirim hadiah via pos. En français, ma sœur a envoyé un cadeau par la poste. Kakakku mengirim hadiah melalui pos. Kakakku mengirim hadiah melalui pos. En français, ma sœur a envoyé un cadeau par la poste. Avant de terminer apprendre l'indonésien aujourd'hui, pour comprendre mieux, écoutons l'exemple de la conversation encore une fois.
Kakakku mengirim pesan selamat ulang tahun lewat pos L.
Apakah kamu sudah membalasnya?
Ya, sudah.
Chers amis, voilà l'édition de la rubrique de l'apprendre l'indonésien aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour ceux d'entre vous qui veulent savoir plus l'indonésien. On se retrouvera demain avec d'autres sujets intéressants. Merci beaucoup pour votre attention. À demain.
Dengarlah, dengarlah wahai para lelaki, wanita ada tuh kau lindungi. Jangan mengatasdasarkan cinta, kau hancurkan dia dengan mimpi indahnya. Wanita masih punya mimpi, dia masih punya hati. Wanita ada tuh kau lindungi. Dengarlah, dengarlah wahai para lelaki, wanita bukan tuh kau sakiti. Dengarlah, dengarlah wahai para lelaki, wanita ada tuh kau lindungi. Janganlah kau sakiti dia, wanita pantas untuk dilindungi. Berikan sebuah cinta tulus untuknya, bahagiakan selamanya. Wanita bukan tuh kau sakiti. Dengarlah, dengarlah wahai para lelaki, wanita ada tuh kau lindungi. Janganlah kau sakiti dia, wanita
Cette Zeritok, c'était la dernière chanson intitulée Lelaki, chantée par Julian. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie pour le monde. Bon, Zeritok, nous continuons notre programme avec les informations musicales.
Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Cette édition, je vous présente une chanson de Kroncong intitulée Dinda Bestari. La chanson de Kroncong, dont le titre est Dinda Bestari, a été composé par RBY Suprono ou Sunandar Adikusumo. Cet homme est né à Sidoarjo, Java de l'Est, le 17 février 1924. Il était gouverneur de Java de l'Est. Malgré sa mort, cette chanson, on l'écoute encore aujourd'hui. Cette chanson raconte d'une armée qui n'avait pas rencontré son amant depuis longtemps parce qu'il se battait pour défendre le pays. Il espérait de la rencontrer encore. Cette chanson a également été chantée par le chanteur indonésien s'appelle Rama Aipama, dont le genre est disco reggae. Chers auditeurs, maintenant, écoutons la chanson dont le titre est Dinda Bestari, chantée par Mus Mulyadi.
Untuk medan terindah
chers auditeurs, c'était l'émission Côté des langues françaises pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous. Voice of Tunisia, l'Indonésie pour le monde, sur la fréquence de 33,25 kHz et sur le site web www.voice.id. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.